Merci d'écouter RFI, les 5h30 à Paris, 6h30 à Goma et Bujumbura. Et on retrouve le boss de l'info africaine. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Une assistance au minimum, un hébergement et des repas, mais tout cela pourrait s'arrêter dans les prochains mois pour les réfugiés congolais au Burundi.
C'est le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui affirme ne pas avoir les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins au-delà du mois de juillet pour les près de 70 000 Congolais qui ont trouvé refuge ces derniers mois de l'autre côté de la frontière. Dans ce journal également le Cameroun, où l'ONG Mandela Center demande aux autorités de sévir contre les policiers violents. Et la Guinée, où 8 mois après les condamnations prononcées au procès des massacres du 28 septembre 2009, aucune indemnisation n'a encore été versée. Et pour l'avocat que vous entendrez dans quelques minutes, c'est à l'État guinéen de prendre le relais. On s'intéressera aussi aux enjeux de la génétique pour les Africains, qui représentent le génome le plus diversifié, mais leurs gènes sont aussi les moins étudiés. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Antoine Grenier et les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde du football qui se poursuivent. 8 matchs au programme ce lundi, notamment Madagascar-Ghana. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés avoué en fin de semaine dernière être dépassé. Ce matin, c'est le Programme Alimentaire Mondial qui alerte sur les conditions de vie dégradées des Congolais qui ont fui les violences de ces derniers mois dans l'est de la RDC et qui ont trouvé refuge dans les pays voisins que sont le Burundi et l'Ouganda. Le HCR en a compté environ 30 000 en Ouganda, 70 000 au Burundi, des personnes prises en charge de manière très sommaire. Et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, craint même de ne pas avoir assez d'argent pour prolonger cette aide d'urgence au-delà de quelques mois. Écoutez Christine Koudour, chargée des partenariats au sein du bureau du PAM au Burundi.
Les derniers chiffres du HCR font état de 69 000 personnes qui ont dû fuir l'est de la RDC pour chercher refuge au Burundi. On parle ici principalement de femmes, d'enfants, de personnes âgées totalement démunies qui ont fui en n'emportant pratiquement rien avec elles, si ce n'est les vêtements qu'elles portent. Le PAM a réussi à mobiliser des ressources pour permettre la distribution, la préparation et la distribution de repas chauds, étant donné que ces personnes sont hébergées à l'heure actuelle dans des centres de réception temporaires, comme les écoles et comme les stades. Il y a notamment un stade, le fameux stade de Rugombo, où il y a 40 000 personnes qui sont hébergées dans ce stade. Mais malheureusement, nous avons dû réduire les rations, puisque le nombre de réfugiés ayant doublé, mais les ressources disponibles étant les mêmes. Et à partir du mois de juillet, en l'absence de fonds supplémentaires, nous serons incapables de fournir toute assistance alimentaire. Avec 20 millions de dollars, on pourrait soutenir les 120 000 réfugiés congolais actuellement dépendants de cette assistance alimentaire au Burundi.
Christine Koudour du Programme Alimentaire Mondial au Burundi, l'Est congolais, où d'après nos informations, les rebelles M23 étaient toujours présents hier soir à Walikale Centre, cette localité du Nord Kivu dont ils se sont emparés en milieu de semaine dernière et dont ils avaient annoncé leur retrait avant-hier dans l'optique, avait-il dit, de favoriser un dialogue avec les autorités congolaises. Alors qu'à Kinshasa, dans le même temps, débutent aujourd'hui des consultations en vue de bâtir un gouvernement d'union nationale. Au programme, des rencontres au cours des prochains jours menées par un conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, rencontre avec les forces vives de la nation, des consultations déjà rejetées par la plupart des opposants congolais. Et ce contexte de guerre dans l'est de la RDC, il ne plaît pas aux chefs d'entreprise congolais, mais aussi plus globalement de la région. L'incertitude liée au conflit n'est pas bonne pour les affaires, écrivent dans une tribune plusieurs membres du réseau d'affaires Makutano, d'autant plus que ce conflit touche deux provinces qui sont centrales pour l'économie congolaise, explique Obed Kambala, analyste indépendant, cadre dans une banque au Nigeria et l'un des signataires de cette tribune.
Déjà, il faut noter que c'est difficile de mesurer avec beaucoup d'exactitude les impacts puisqu'ils sont de plusieurs dimensions. Ils touchent notamment le secteur financier. Il faut dire ici que le Nord et le Sud qui vous représentent, on va dire, plus de 50% de la microfinance en RDC, ils constituent ensemble la troisième région bancaire après Kinshasa et Katanga. Ce secteur est inopérationnel. Il y a aussi le tourisme, il y a aussi les infrastructures de télécom ont été quelquefois endommagées. On a aussi des cas où il y a des localités entières qui ont été privées de services de télécom. On a entre autres Kichanga et Ngungu. Il y a le manque à gagner fiscal et parafiscal. Il y a moins de recettes et l'impossibilité de l'État de mobiliser ses recettes et d'atteindre ses assignations budgétaires. C'est très inquiétant parce que non seulement les vies sont exposées, les activités sont stoppées, et une grande partie des ressources du Congo s'envolent. Donc voilà, c'est inquiétant.
Obed Kambala, des propos recueillis par Charlotte Cossé. Au Tchad, les avocats font la grève de la Cour suprême à partir d'aujourd'hui à N'Djamena. Le Conseil de l'Ordre des avocats tchadiens dénonce notamment la multiplication de verdicts rendus sans jugement par la Cour. Et vous entendrez dans le prochain Journal Afrique, dans une heure, le président du Conseil de l'Ordre. Il explique qu'il souhaite en fait plus de contrôle sur les activités de cette Cour suprême. En Centrafrique, c'est l'opposant Anis et Georges Dologuele qui dit sa colère. Le leader du parti Union pour le Renouveau Centrafricain, empêché de tenir une réunion politique hier à Begoua, au nord de Bangui, la capitale centrafricaine. En fait, le rassemblement a pu débuter brièvement avant d'être interrompu par les forces de l'ordre. Anissé Georges Dologuele parle d'atteinte à la démocratie en cette année d'élection présidentielle en Centrafrique. Au Cameroun, les policiers qui outrepassent leurs droits dans le collimateur du Mandela Center, l'ONG de défense des droits de l'homme, demandent aux autorités de Yaoundé de poursuivre tous les policiers violents. Réaction en fait à l'arrestation puis à la torture d'un jeune homme soupçonné de vol de téléphone et retenu pendant 2 semaines au commissariat avant d'être relâché sans poursuite. Un cas qui n'a rien d'une exception, affirme le juriste Jean-Claude Fognio, le secrétaire exécutif du Mandela Center.
Nous exigeons des autorités camerounaises qu'elles mettent un terme à l'impunité et que les auteurs d'actes de torture ou bien des violations graves des droits humains soient poursuivis, que ces gens-là subissent les foudres de la loi. C'est très important. Chaque fois que nous dénonçons, les auteurs ne sont jamais inquiétés. Nous avons des centaines de cas. Ce qui nous choque davantage, c'est pour le cas de ce jeune homme qui a été interpellé depuis pratiquement 14 jours pour une histoire de vol de téléphone alors qu'il n'était même pas dans la ville. Dans les locaux de commissariat, les policiers se sont mis justement à des actes de torture avec des machettes, avec des goudins et tout ça. Et ce que nous dénonçons, c'est que justement, il s'agit là d'une pratique qui se généralise au Cameroun. Il va falloir que tout le monde, notamment les forces, les éléments de force de sécurité camerounaise, apprennent aussi à respecter la loi. C'est de ça qu'il est question. Et une fois des cas portés à l'attention de la justice, que la justice fasse effectivement son travail. C'est ce que nous exigeons des autorités camerounaises.
Jean-Claude Fognio, le secrétaire exécutif de l'ONG Mandela Center, joint au Cameroun par Guillaume Thibault. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Togo et l'opposition qui a tenu meeting hier à Lomé, rassemblement une nouvelle fois pour protester contre la nouvelle constitution adoptée l'an dernier. Une nouvelle constitution qui est vue par les opposants togolais comme un moyen pour le président Fornia Simbe de se maintenir au pouvoir. Le Burkina Faso et les journalistes qui dénoncent des atteintes à la liberté d'expression, disent-ils, jamais égalées depuis le coup d'État d'Ibrahim Traoré il y a 2 ans et demi. C'est l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, qui s'exprime. Son président parle d'une mainmise totale de la junte sur les médias publics qui seraient devenus des outils de propagande. Il dénonce aussi l'arrestation et la séquestration de journalistes et de chroniqueurs, ainsi que la pression des autorités de Ouagadougou pour fermer les médias indépendants dans le pays. En Libye, là c'est la MANUL, la mission des Nations Unies, qui s'inquiète d'une vague d'arrestations arbitraires qui ont touché ces derniers temps, ces dernières semaines, un certain nombre d'avocats et de magistrats libyens. La force de l'ONU appelle à leur libération. Et puis la justice en Guinée et les victimes du massacre du 28 septembre 2009 qui s'impatientent 8 mois après le verdict du procès. La condamnation des accusés, dont l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara, à des peines de prison et aussi au paiement d'indemnités. 19 milliards de francs CFA au total, dont les centaines de victimes reconnues n'ont pas encore vu la couleur. La plupart des condamnés ne sont pas en mesure de payer. Et dans ce cas, c'est l'État guinéen qui doit prendre le relais, estime Maître Alpha Amadou Desba.
Ça fait 8 mois que le verdict a été rendu. Malheureusement, nous n'avons pas à date obtenu une quelconque réparation parce que la plupart des personnes qui ont été condamnées sont pauvres. Celles qui ont les moyens, on n'a pas pu retrouver leurs biens. Donc, on n'a pas pu mettre en œuvre la procédure d'exécution de la décision qui a été rendue. C'est vrai, la décision n'a de valeur que si elle est exécutée. On ne peut pas dire qu'on a un grand espoir puisque l'État traîne les pas. À l'ouverture du procès, on nous avait parlé d'un montant de 19 millions. On ne sait pas qu'est-ce que ce montant est devenu. Donc, on ne peut pas aujourd'hui être totalement pessimiste, mais on est mesuré dans l'optimisme que nous devons avoir. Donc, cette question de réparation incombe en premier lieu au gouvernement guinéen, même si des personnes ont été condamnées. Et c'est de sa responsabilité d'indemniser les victimes.
Maître Alpha Amadou Desba au micro de notre correspondant Mokhtarba à Conakry, où il est maintenant 4h40.
Afrique Matin sur RFI.
5h40 ici à Paris, à suivre dans Afrique Matin. On s'intéresse aujourd'hui et tout ce début de semaine aux questions de génétique. Et ce matin, à ce paradoxe, les Africains ont le patrimoine génétique le plus diversifié, mais aussi le moins étudié. Un reportage ensuite au Gabon, dans les coulisses du train qui relie Libreville à Franceville. Une ligne en pleine rénovation, nous expliquera François Mazé. Et notre invité enfin, le Sénégalais Ayib Dafé, secrétaire général du PASTEF, le parti au pouvoir, un an après l'élection à la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Mais tout de suite, ce sont les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Xavier.
Le football ce matin, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Le Gabon met la pression sur la Côte d'Ivoire.
En conclusion d'un dimanche qui a vu l'Eswatini et l'île Maurice se neutraliser 3-3 dans le groupe D, un nul qui n'arrange personne, pendant que les Panthères, elles, ont fait le boulot en allant dominer le Kenya 2-1. Une sixième journée qui replace donc provisoirement les Gabonais en tête du groupe F avec 2 points de plus que les Ivoiriens.
La Côte d'Ivoire qui joue sa sixième journée d'éliminatoire aujourd'hui avec pour mission de répliquer à la victoire gabonaise.
Les champions d'Afrique en titre reçoivent la Gambie, une rencontre disputée à Abidjan devant leur public. Les éléphants qui espèrent à cette occasion offrir un meilleur football que lors de leur précédente sortie, notamment le court succès 1-0 sur le Burundi lors de la cinquième journée. C'est en tout cas ce qu'attend Emers Faé, le sélectionneur ivoirien.
Que ce soit individuellement